Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans « Marie Tudor, la souffrance du pouvoir », Isabelle Fernande propose une biographie historique de Marie Ire d'Angleterre, fille d'Henri VIII et reine de 1553 à 1558. L'ouvrage s'attaque à une mémoire durablement dominée par le surnom de « Bloody Mary », qui réduit volontiers son règne à la répression des protestants et au bûcher. Sans effacer la réalité des quelques 300 exécutions intervenues sous son gouvernement, l'auteur replace ces violences dans les conflits confessionnels, dynastiques et politiques de l'Angleterre du XVIe siècle, spécialiste de la civilisation anglaise et de la réforme. Fernande examine une souveraine confrontée à la restauration du catholicisme, à la fragilité de sa légitimité, à son mariage espagnol et à l'urgence d'assurer la succession. Le livre ne vise donc ni la réhabilitation sans réserve, ni la condamnation sommaire. Il cherche à comprendre comment une femme de pouvoir, dont le règne fut bref et lourdement jugé par ses successeurs protestants, est devenue l'une des figures les plus noires de l'histoire anglaise. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, défaire la légende de Bloody Mary sans signer la persécution. Le principal apport du livre réside dans son refus d'accepter le surnom de Marie la Sanglante comme une explication suffisante. Cette formule résume Marie Tudor à la persécution religieuse, mais elle est aussi le produit d'une mémoire façonnée après son règne, lorsque le protestantisme s'impose durablement en Angleterre sous Elizabeth Eyre. Fernandes invite ainsi à distinguer deux éléments les faits, notamment les exécutions de protestants sous Marie et le récit politique, confessionnel et culturel qui a transformé ces faits en portrait définitif d'une reine monstrueuse. La distinction importe parce que l'Angleterre du XVIe siècle ne connaît pas encore la tolérance religieuse au sens moderne, les autorités catholiques comme protestantes associent. Alors l'unité de la foi à la stabilité du royaume. Ce contexte ne justifie pas les bûchers. Il évite en revanche de présenter leur existence comme l'expression isolée d'une cruauté personnelle. L'auteur ne remplace donc pas une légende noire par une image inversement idéalisée. Elle restitue les responsabilités de la souveraine tout en montrant que la postérité a privilégié les victimes protestantes, leurs récits et leur martyrologie. Le lecteur comprend que l'histoire de Marie est inséparable de la fabrication de son souvenir jugé son règne, exige d'examiner à la fois l'action gouvernementale et les sources qui l'ont durablement interprétée. Deuxièmement, un règne pris dans la crise religieuse ouverte par Henri VIII et Édouard VI. Marie hérite d'un pays dont les cadres religieux ont été profondément bouleversés avant son avènement, la rupture d'Henri VIII avec Rome. Puis, l'accélération des réformes protestantes durant le court règne d'Édouard VI ont fait de la religion un enjeu direct de souveraineté, de fidélité politique et d'identité collective. Dans cette situation, restaurer le catholicisme ne consiste pas seulement à modifier des pratiques liturgiques, c'est tenter de reconstruire une église, de rétablir les liens avec la papauté et de remettre en ordre un royaume traversé par des intérêts opposés. Fernande éclaire cette épaisseur du problème en évitant de traiter la politique de Marie comme un simple retour en arrière dicté par sa piété. La reine agit dans un espace où la foi est conçue comme une affaire publique et où les changements institutionnels des règnes précédents ont créé des attentes, des résistances et des bénéficiaires matériels. La restauration catholique rencontre donc une opposition qui est à la fois doctrinale et politique. Le recours à la coercition révèle l'échec partiel d'une politique d'unification plus qu'il ne prouve, à lui seul, une singularité psychologique de Marie. Cette perspective permet de saisir la dureté de son règne comme l'un des épisodes les plus aigus de la réforme anglaise. Elle rappelle aussi que les persécutions alimentent la cause adverse, les condamnés protestants deviennent des martyrs, et leur mémoire contribue à affermir l'identité confessionnelle que Marie voulait combattre. Troisièmement, exercer l'autorité au féminin dans une monarchie dynastique fragile. L'ouvrage met en valeur le caractère exceptionnel de Marie Tudor, elle est la première femme à régner effectivement sur l'Angleterre avec le titre de reine souveraine. Cette position n'a rien d'abstrait. Elle soulève des interrogations concrètes sur le mariage, l'exercice du commandement, la transmission dynastique et l'autonomie du royaume. Une reine est censée gouverner en son nom propre, mais les normes politiques et sociales de son temps attribuent volontiers l'autorité publique aux hommes. La question de son union avec Philippe d'Espagne devient dès lors centrale, elle touche aux alliances internationales, mais aussi à la crainte que l'époux ne prenne l'ascendant sur la couronne anglaise. Fernande permet de comprendre que les difficultés de Marie ne peuvent être séparées de cette situation de genre et de succession. Son absence d'héritier rend la restauration catholique précaire, puisque la continuité religieuse du royaume dépend largement de la pérennité dynastique. Les grossesses espérées puis démenties prennent ainsi une portée politique autant que personnelle. En outre, le contraste rétrospectif avec Elizabeth Eyre a longtemps pesé sur son image au règne court, marqué par les crises, de Marie a été opposé le règne long et glorifié de sa demi-sœur. le livre invite à ne pas faire de cette comparaison une mesure automatique de l'échec. Il examine plutôt ce que signifie gouverner dans un cadre institutionnel qui n'offre encore aucun modèle stabilisé de royauté féminine. Quatrièmement, le mariage espagnol. Calais et les contraintes de la politique européenne, la biographie replace Marie dans l'Europe des Habsbourg, de la papauté et des rivalités franco-anglaises. Son mariage avec Philippe d'Espagne est souvent retenu comme une faute politique ou le signe d'une dépendance envers l'étranger. Fernande conduit à le lire plus précisément comme une décision dynastique et confessionnelle aux conséquences ambiguës. Cette alliance peut renforcer la position d'une reine catholique qui souhaite consolider son trône et obtenir un héritier. Elle suscite simultanément une forte défiance en Angleterre, où l'influence espagnole apparaît menaçante. Le choix matrimonial devient donc un foyer de tension intérieure plutôt qu'une simple affaire privée. Le cadre international éclaire également la perte de Calais en 1558, épisode particulièrement humiliant pour la couronne anglaise. Dernière possession anglaise sur le continent, Calais possède une valeur stratégique et symbolique considérable. Sa conquête par les Français aggrave l'impression d'un règne malheureux. Toutefois, la présenter comme la preuve isolée de l'incapacité de Marie reviendrait à ignorer les contraintes d'une politique européenne dominée par des puissances rivales et les effets de l'Alliance espagnole. Le livre montre ainsi que l'autorité monarchique ne se déploie jamais dans un vide national. La religion. Le mariage et la guerre sont étroitement liés. Restaurer le catholicisme rapproche Marie des puissances catholiques. Mais ce rapprochement expose aussi son gouvernement à des coûts diplomatiques et à une impopularité accrue. En dernier lieu, martyrs protestants et écriture d'une mémoire victorieuse, un enjeu décisif de l'analyse est la place du martyr dans la construction de l'histoire. Les protestants exécutés sous Marie ne sont pas seulement des victimes d'une politique répressive dans les récits produits après les événements. Ils deviennent les témoins héroïques d'une vérité religieuse appelée à triompher. Cette transformation est particulièrement importante dans une Angleterre redevenue protestante après 1558. Les écrits protestants, notamment la tradition martyrologique associée à John Fox, donnent au supplice un sens exemplaire et durable. Ils fixent des images de la persécution catholique qui contribuent puissamment à la réputation de la reine. Fernande, dont les travaux portent aussi sur l'écriture du martyr protestant anglais, est particulièrement bien placée pour souligner que les sources ne sont jamais de simples dépôts neutres de faits. Elles sélectionnent les victimes, organisent l'émotion, proposent des modèles de fidélité et inscrivent l'épisode marial dans un récit providentiel de la Réforme. Comprendre ce mécanisme ne revient pas à contester la souffrance des condamnés ni la gravité de leur mort. Il s'agit de voir comment cette souffrance a été mise en texte, diffusée et mobilisée dans un conflit confessionnel. Le livre apporte ainsi une leçon de méthode historique. La réputation de Marie ne vient pas uniquement de ses décisions. Elle résulte également de la survie, de l'autorité et de la circulation des récits écrits par le camp qui lui a finalement succédé. En conclusion, Marie Tudor, la souffrance du pouvoir, s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par les Tudors, la réforme anglaise et l'histoire politique des femmes au XVIe siècle. Il convient aussi à ceux qui connaissent Marie Eyre, principalement à travers le cliché de Bloody Mary et souhaitent disposer d'un cadre plus rigoureux pour évaluer son règne. Le bénéfice intellectuel majeur du livre est de faire tenir ensemble des réalités que les portraits simplificateurs séparent Marie, fut une souveraine catholique convaincue. Son gouvernement fit exécuter des protestants, mais son image ultérieure fut aussi construite et amplifiée par une culture historique protestante devenue dominante. Cette approche apprend à interroger les sources, les récits de martyrs et les comparaisons flatteuses avec Elizabeth Eyre plutôt qu'à substituer un verdict hâtif à un autre. Par rapport à une biographie dynastique centrée sur la succession des événements. L'ouvrage se distingue par l'attention accordée aux conditions intellectuelles et confessionnelles du pouvoir. Il ne traite pas la religion comme un décor de la vie privée de la reine, mais comme une structure de gouvernement, de légitimité et de mémoire collective. La place du mariage espagnol, de l'infécondité, de la perte de Calais et de la répression y apparaît dans une même problématique, celle d'un règne bref qui devait à la fois gouverner, restaurer une foi et assurer son avenir. Cette lecture nuancée, accessible sans être réductrice, fait du livre une porte d'entrée solide pour comprendre pourquoi Marie Tudor demeure une souveraine aussi controversée. Si vous souhaitez soutenir Isabelle Fernande, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.